explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que je puisse regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Il en va des contes comme des êtres vivants. Ils naissent, évoluent, se transforment et se déplacent. La première version du conte de Cendrillon, par exemple, serait apparue en Chine il y a plus de 1000 ans. Puis le conte a voyagé en Asie du Sud-Est, en Amérique et en Europe. Il s'est transformé au contact des cultures et au gré des époques. Aujourd'hui, de multiples versions existent à la surface du globe. Ainsi va la vie des contes. Ils voyagent dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle diffusion du temps d'un bivouac avec Bernadette Bricout, professeur de littérature orale et auteur de La Clé des Contes aux éditions du Seuil. Puis nous irons faire un tour avec le conteur Nicolas Mezzalira dans la forêt de Brocéliande. Cette forêt mythique décore de bien des contes et légendes. Il nous racontera la naissance de Merlin. Et à 17h, comme tous les vendredis, nous retrouverons Anne Pastor pour un nouvel épisode de sa série Voyage en terre indigène, une histoire oubliée des peuples francophones. Mais tout de suite, Bernadette Bricout nous emmène à travers le monde entier pour nous raconter des histoires de contes.
Quand la nuit tombe, le vieux Kankou s'adosse contre le tronc de l'arbre à palabres. Il se racle la gorge et les plus jeunes accourent. Ils ont faim de connaître la fin, la suite. Une autre histoire, s'il te plaît, Kankou. Mais son acolyte de toujours n'est pas encore là. Quel serait mon récit sans le son de la cora? Une embarcation échouée loin du fleuve qui devait la porter. Enfin le voilà! On reconnaît de loin la démarche nonchalante du griot. L'arbre à palabres qui, durant la journée, préside au conseil du village se change alors en nef. Et il emporte l'assemblée loin, bien loin du raisonnable, du pas possible, du rationnel. Et les histoires du vieux Kankou deviennent vraies. Demain, on pourra douter.
On commence notre bivouac sous l'arbre à palabres, bien connu en Afrique, sous lequel le griot raconte. Bernadette Bricout, c'est aussi un clin d'œil, car vous connaissez bien l'Afrique, vous y avez vécu les premières années de votre vie. Alors les contes occupent une place importante en Afrique, mais en fait partout dans le monde.
Je suis née à Bamako, ça pourrait être le début d'un conte.
Ouais.
Et je ne résiste pas au plaisir de vous dire que je suis née, comme un certain nombre de chauffeurs de taxi parisiens, à Bamako, à l'hôpital du Point G. Il existe.
C'est vrai.
Donc vous voyez,
pour
une biographie, ce serait un commencement merveilleux.
Ah oui, pour un conte aussi. Et alors il y a effectivement l'Afrique, mais comme je le disais, le monde entier regorge de contes, on a besoin de contes partout.
Oui, les contes ne connaissent pas de frontières. D'une certaine façon, ils ont voyagé. Alors, ils ont voyagé avec la parole, avec les missionnaires, avec les commerçants, avec les explorateurs. Et vraiment, d'une certaine façon, la mondialisation de la littérature s'invente avec eux. Et en même temps, ils abolissent les frontières. Parce que, on vient de l'entendre dans le court extrait sur l'arbre à palabres, ils abolissent les cloisons dont notre monde est hérissé. Dans les contes, les arbres parlent, les herbes parlent, les animaux parlent. Et au fond, tous ces langages que nous avons perdus, c'est en tout cas ce que dit le conte, on se doit de les écouter ou de les réapprendre. Donc c'est en même temps une autre écoute du monde qui nous invite.
Alors pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez, comme vous voulez, un conte venu d'un pays, lointain ou pas, qu'on ne connaît pas forcément.
Alors, c'est évidemment très intime, parce que le conte se nourrit de ce que nous sommes. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une brève histoire très courte qui est une histoire chinoise. Elle nous dit cette histoire, et c'est une histoire d'amour. J'aime beaucoup les histoires d'amour, mais l'amour est très important dans les contes. D'ailleurs, les contes parlent-ils d'autre chose de façon cruelle ou douce ou suave, on peut se le demander. Donc elle nous dit cette histoire qu'un mandarin, un homme de science, de sagesse, de savoir, était amoureux d'une courtisane. Et lorsqu'il lui déclara sa passion, elle lui répondit « Je serai à vous lorsque vous aurez passé 100 nuits à m'attendre, assis sur un tabouret, dans mon jardin, sous ma fenêtre. » Et ainsi fit le mandarin. On nous dit que tous les soirs et par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il vint s'asseoir dans le jardin, sur le tabouret, sous la fenêtre de sa bien-aimée, dans le jardin silencieux. Mais le conte nous dit aussi qu'à la fin de la 99e nuit, lorsqu'arriva l'aube, il se leva, il prit son tabouret sous son bras et il s'en alla. Et la 100e nuit, il ne revint pas.
Au moment où il allait toucher au but ?
Au moment où il allait toucher au but. Et vous voyez, c'est une première marque de la force des contes. Le conte ne nous dit pas pourquoi il ne revient pas. Ouais. Il ne nous dit pas non plus pourquoi la courtisane a imaginé cette épreuve. Alors on peut se dire que ce mandarin était convaincu que l'attente du plaisir est plus grande que le plaisir lui-même, ou qu'il a voulu remplir l'épreuve, mais ne pas céder non plus à une loi et préserver sa liberté. Ou bien qu'il est parti en voyage, qui sait, puisque c'est le thème de notre émission. En tout cas, il part avec son secret, et le conte reste sur ce silence.
Ouais. On s'en rend compte, rien qu'avec cet exemple, les contes ne s'adressent pas uniquement aux enfants, comme souvent on le pense.
Les contes s'adressent à toutes les générations, et dans les sociétés traditionnelles, on commençait très souvent par des devinettes et par des petits contes qui étaient souvent des contes d'animaux. Et ensuite, quand les enfants étaient allés se coucher, on racontait les grands contes. Mmh. Les contes merveilleux, les légendes, les récits de peur. Donc, le conte s'adresse à toutes les générations. Et aujourd'hui, l'histoire que je viens de vous raconter, Fabrice Lucchini en a fait une version qui s'adresse vraiment à un public adulte dans un très beau commentaire de l'attente dans les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Donc, l'histoire circule. Aujourd'hui, il y a la version de Fabrice Lucchini et demain, peut-être la vôtre.
Ah, mais je vais plancher dessus, en tout cas. Je pense que je ferai pas aussi bien que Fabrice Lucchini. Selon vous, quand est apparu le premier conte, finalement ?
Ah, ça, c'est évidemment une question qui restera sans réponse. Mais si vous me permettez une hypothèse, moi je crois que les contes sont apparus avec la vie en société, avec la vie en communauté, dès qu'il a fallu conjurer des peurs dans un univers menaçant, dans un univers inconnu. Moi, je serais tentée, si vous voulez, s'il fallait raconter le conte du premier conte, de penser que peut-être le premier conte a été invoqué, créé pour conjurer la peur de la nuit. Et si le soleil ne revenait pas, qu'est-ce que ça veut dire pour l'homme de la préhistoire, pour ses lointains ancêtres ? Moi, je crois que le conte est là d'abord pour conjurer des peurs et pour préserver la vie. Oui. Donc, il est aussi vieux que l'humanité.
Oui. Finalement, dès que l'homme a su parler, il s'est mis à compter ?
Bien sûr.
Alors, évidemment, vous en connaissez beaucoup de ces contes à travers des civilisations, à travers des époques. Vous nous dites c'est arrivé au début pour conjurer la peur. Vous avez vu d'autres utilités aux contes ?
Oui, il y en a évidemment beaucoup. D'abord, ils sont une mémoire. Ils sont une mémoire parce qu'ils nous rappellent d'où nous venons. Et vous savez ce que dit le proverbe, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc c'est une mémoire. Alors c'est une mémoire, bien sûr, c'est une mémoire longue, c'est la mémoire des récits des origines. Comment la vie est-elle apparue sur la Terre ? Comment le monde a-t-il été créé ? Les grands récits cosmogoniques. Et puis c'est une mémoire également pour les familles. Parce que dans les familles aussi, la mémoire circule par le récit. Combien de gens dont nous sommes séparés par l'exil, par la guerre, par la mort, et qu'on ne connaît que par les histoires qu'on raconte sur eux. Donc, mémoire également historique. Regardez les récits qui se transmettent. Il faut écouter les personnes âgées. Parfois, on dit, on nous dit c'est un radotage parce qu'elles confondent des époques, mais pas du tout. Très souvent, la mémoire longue est une mémoire fidèle. Et donc, au fond, elles sont cette littérature est d'abord là comme la mémoire de ce que nous n'avons pas connu. Elle nous fait voyager dans le temps. Elle nous fait voyager en amont. Mais il y a aussi une morale. Une morale parce qu'il y a des leçons dans les contes. Non, pas du tout, sont pas des leçons manichéennes, mais les contes posent des questions que la vie nous pose. et il nous amène peut-être à y répondre par des voies nouvelles.
Alors il y a une morale, vous m'avez dit quelque chose d'amusant, vous m'aviez dit Barbe Bleue. C'est un conte un petit peu horrible, là, avec ce Barbe Bleue qui dévore ses femmes, qui les fait cuire au four. Vous avez dit, les étudiantes qui viennent étudier les contes avec vous, elles préfèrent s'intéresser à Barbe Bleue plutôt qu'à Cendrillon, par exemple.
Qu'au prince charmant.
Qu'au prince charmant,
parce que le prince charmant leur apparaît fade, lisse et sans aspérité. Ouais. Ça ne les fait pas rêver. Barbe Bleue, il est du côté de l'époux monstrueux. Il a un secret qu'il cache dans le petit cabinet dont il ne faut pas ouvrir la porte. Et en même temps, Barbe Bleue est vraiment un des contes les plus mystérieux qui soit. Pendant longtemps, on a voulu y voir, vous voyez, dans la lignée des histoires de Gilles de Rais, une histoire de serial killer, au fond, de meurtrier répétitif. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche de notre époque, ben, on s'aperçoit, notamment avec l'opéra, avec Béla Bartok, je pense à lui parce qu'en 2018, on va célébrer le centenaire de l'opéra de Bartok, que Barbe Bleue est interrogé peut-être comme une victime. Il est un homme qui a un secret, et dans l'opéra de Bartok, lorsque l'héroïne a franchi les sept portes, Barbe Bleue la supplie de ne pas franchir la septième porte, elle le fait, et ce faisant, elle le perd et elle se détruit. Ce qui signifie peut-être que, à trop vouloir savoir de l'autre, à vouloir tout savoir de l'autre, on est dans une époque où on parle beaucoup de la transparence, et bien peut-être qu'on détruit l'amour.
Oui. Il existe des... Comment on fait pour s'y retrouver dans tous ces contes, dans toutes ces versions de contes aussi? Il existe une grande classification des contes.
Oui, oui, oui. Ben, on a été obligé de les classer, ne serait-ce que pour permettre aux invités que vous allez recevoir tout à l'heure, s'ils dialoguent avec des Chinois ou des Japonais, et s'ils ne sont pas unis par la même langue, de savoir qu'on parle du même récit. Ouais. Donc, on a, oui, une classification, au fond, de tous les arbres existants, et chacun de ces arbres est un conte. Vous voyez, c'est une classification scientifique. Ils ont une trame, ils portent un numéro, et voilà. Et
c'est très sérieux.
Ah oui, c'est extrêmement sérieux, c'est ancien, ça date de des années, la première classification date de 1910. On avait distingué 2340 contes, mais attendez, Cendrillon dont vous parliez tout à l'heure et dont on a des centaines et peut-être des milliers de versions, Cendrillon n'est qu'un sous-type, c'est le 510A.
On fumait des gauloises bleues. Les beaux jours, on fumait les gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Ah, ah, les beaux jours, les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de l'aile, parfois je voyais Verlaine. Ah, les beaux jours. Et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Jefferson Airplane s'installait à la présidence, car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutiques à music hall, au boulevard du rock'n'roll. Ah, les beaux jours. Le temps a passé, court-circuité les amplis. Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues du Clichy. Soir au bal des larmes. Duke Ellington arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait les gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Les beaux jours, les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons. Voici les fleurs du mal, vous êtes encore en cette saison.
C'était Clou, les Gauloises bleues.
Je commence à me demander, je t'ai appelé deux fois.
Oh, tu vas pas m'engueuler, j'ai foncé. Il est éteint mon téléphone, je l'entends pas.
Ça sert à quoi alors d'avoir un portable?
Vas-y, monte maman, monte, il faut que je retourne là-bas.
Je demande pas grand-chose à venir me chercher une fois de temps en temps, on a l'impression qu'on t'arrache un œil. Pourquoi t'as pas de chaussures?
Moi, attache ton casque, il faut que je retourne à la soirée.
Une soirée, c'est une soirée sans chaussures? Pourquoi il te manque une chaussure?
Un extrait de Au bout du compte, un film d'Agnès Jaoui qui s'amuse avec les contes et les revisite largement en les entremêlant. Et dans son film, Cendrillon devient un homme, une énième mutation pour ce conte qui, depuis sa première version, n'en finit pas d'évoluer, Bernadette Bricou.
Oui, c'est l'un des contes vraiment les plus répandus à la surface du globe. C'est un conte dont on a, je vous le disais, recueilli des milliers de versions et des versions qui sont tout à fait poétiques et surprenantes. Mmh. Et l'un des plus beaux voyages que nous offre le conte, quand on s'embarque avec une grande histoire comme celle-là, c'est qu'à chaque instant, on la redécouvre et on se dit « Ah, c'était donc ça !» Comme on le ferait d'un être aimé, vous voyez, dont on ne perce jamais le mystère. Ouais. Je suis toujours dans la métaphore fort de l'amour, mais c'est vrai, cette Cendrillon, elle est, d'abord de quoi elle nous parle ? Elle nous parle du destin des filles et du parcours que les filles doivent accomplir pour quitter, dans les sociétés traditionnelles, la maison du père, où elles sont enfermées, où très souvent, Cendrillon, c'est celle qui garde la maison pendant que ses sœurs vont au bal, donc elle se confond vraiment avec cet espace domestique, avec l'âtre et les cendres, et elle doit un jour partir de cette maison qu'elle garde, en bonne fille, sage, pour aller dans un autre lieu où elle trouvera chaussure à son pied, comme le dit l'expression, sans qu'on puisse savoir vraiment si elle a inspiré le conte ou si elle en vient.
Oui. Alors, la plus ancienne version du conte de Cendrillon, il faut aller la chercher où ?
Du côté de la Chine. Ouais. Du côté de la Chine. Et on y a pensé très tôt, puisque la petitesse du pied est l'une des marques de la beauté. Et vous savez à quel point les pieds bandés dans les sociétés chinoises ont une importance. Donc, version chinoise. Jusqu'à plus ample informé.
Oui. Hein. Et il faut remonter jusqu'à il y a
8e siècle.
Oui. 8e siècle, oui. En Chine, on a les traces d'un conte qui ressemble. Évidemment, ça n'est pas celui qu'on connaît, nous.
Ça n'est pas celui qu'on connaît, mais de toute manière, si je vous racontais la version japonaise de Cendrillon ou celle des Indiens algonquins, vous allez dire, mais c'est pas ma Cendrillon, non. Oui. C'est peut-être pas celle de Disney non plus, mais c'en est une. Oui. C'est une sœur.
Je vous propose d'entendre un petit aperçu de la version chinoise, en français bien sûr, de Cendrillon.
Chez les gens du Sud, existait une tradition disant qu'avant les dynasties Qin et Han, il y avait un maître des cavernes appelé Wu. Celui-ci épousa deux femmes. L'une d'elles mourut. Elle avait une fille appelée Yesien, qui montra dès l'enfance de l'intelligence et de l'habileté. Son père l'aimait bien. Après quelques années, il mourut. Et elle fut maltraitée par sa marâtre. Celle-ci lui faisait toujours ramasser du bois dans des endroits dangereux et tirer de l'eau des mares profondes. Ta marâtre a tué ton poisson. Ses arêtes sont sous le tas d'ordures. Prends-les et cache-les dans ta chambre. Tout ce que tu désireras, tu n'auras qu'à les lui demander. Tu l'obtiendras à coup sûr. La jeune fille suivit ce conseil. Et elle réussit à se procurer de l'or, des perles, des robes et de la nourriture chaque fois qu'elle le désirait.
Extrait du documentaire Dans les pas de Cendrillon, diffusé sur Arte. Alors, On reconnaît évidemment certains fragments du Cendrillon qu'on connaît, mais là, plus de bonnes fées. Hein, la fortune vient des arêtes de poissons. Et là encore, on retrouve des symboles chinois, évidemment.
Oui, elle vient des arêtes de poissons, et c'est évidemment un poisson mort. Mais songez que dans nombre de versions, y compris la version des frères Grimm, ça n'est pas la fée qui protège ouais. Cendrillon, c'est la mère morte. La mère morte dont Cendrillon a gardé la mémoire puisque le père s'est remarié, elle est vraiment du côté de cette mère disparue. Tous les jours, dit la version des frères Grimm, elle va sur la tombe qu'elle arrose de ses larmes et sur cette tombe qu'elle arrose de ses larmes, un arbre va pousser, d'où des oiseaux pourront jaillir, surgir, s'envoler dans le ciel, qui seront les auxiliaires de Cendrillon. Songez même... Je ne veux pas évidemment vous donner des cauchemars pour cette nuit, mais qu'il y a des versions oui. où ce ne sont pas les arêtes de poissons que l'on enterre, mais les os de la mer, car la mer a été mise à mort par les sœurs de Cendrillon. Ah ouais. C'est le cas dans les versions grecques. Ce sont des contes très marqués par la famine. Il s'agit de manger, il faut se nourrir, et la première qui cassera sa quenouille ou qui la fera tomber sera mise à mort par les autres. Mmh. Celle qui laisse tomber sa quenouille, c'est la vieille femme. On tue la mère, on la mange, Cendrillon ramasse les petits os, elle ne participe pas à ce festin, elle les enterre derrière la porte. Et 40 jours plus tard, elle trouvera des parures, des perles, des robes. Donc, c'est du côté de la mère morte ou du poisson mort ici, vous le voyez. Ouais. Et les motifs se répondent qu'on trouve une protection. Ouais. Cendrillon, c'est la gardienne de la mémoire.
Ouais. Vous citiez tout à l'heure, vous disiez, je peux vous parler du Cendrillon qu'on raconte chez les Algonquins. Et alors là encore, vous ne reconnaîtriez pas votre conte. C'est quoi la version qu'on rencontre chez les Algonquins ?
C'est une version où une petite fille qui a le visage criblé de trous parce que ses sœurs l'ont marqué avec des mégots de cigarettes. Enfin, elle est véritablement brûlée, torturée, elle a les cheveux brûlés. Eh bien, cette petite fille qui n'a même pas de pantoufles de verre, qui n'a pas de belles robes, on est dans un conte qui est très très proche de la nature, elle va dans la forêt, elle se taille un vêtement dans les écorces des arbres, elle prend pour se mettre en marche les vieux mocassins de son père et elle chemine vers la tente d'un être invisible qui se trouve au bout du village. Et là, l'épreuve consiste à dire de quoi est faite la corde de l'arc invisible, de quoi est fait le chemin qu'emprunte le char de l'être invisible. Et toutes les jeunes filles qui prétendent l'avoir vue s'y sont trompées. Elle arrive, et lorsque la sœur de l'être invisible lui demande de quoi est faite la corde de son arc, elle dit « Mais c'est tout à fait évident, son arc, c'est l'arc-en-ciel. Sur quoi chemine-t-il ? Sur la voie lactée. » Et ainsi, elle a vu ce que les autres ne savent pas voir. Elle rentre dans un étang où elle va être transfigurée. L'être invisible surgit et dit « Alors, nous avons deviné. » Oui, fut sa réponse. C'est toi qui seras mon épouse. Oui.
Ouais. C'est vrai qu'elles sont toutes extrêmement différentes.
Voilà. Hein, et là, on est vraiment dans le cosmos, car cet être invisible a des attributs divins.
Mais est-ce qu'on est sûr que ce sont des contes qui se sont inspirés les uns les autres, ou est-ce que finalement les motifs, comme vous les appelez, hein, dans ces contes qu'on retrouve d'un conte à l'autre, est-ce que ce n'est pas le fruit du hasard, de coïncidence qu'ils aient apparu à différents endroits du globe ?
Alors là, vous posez évidemment une question qui elle aussi est une question insondable. On pourrait faire une année de temps d'un bivouac sur cette question-là. Il y a évidemment des migrations qu'on peut analyser, par exemple d'une province à l'autre, parfois d'une contrée à une autre, parce que bon, il y a des chemins que l'on peut suivre. Mais il y a aussi ce qui est infiniment mystérieux, le fait que au fond, des contes sont apparus, des versions de contes sont apparues sur les 5 continents, sans qu'on puisse établir de chemin de migration. Et au fond, la question que vous posez, vous voyez, c'est pourquoi les arbres ont-ils des feuilles ? Pourquoi chaque fleur a-t-elle des sépales, des pétales, des étamines, un pistil, eh bien c'est infiniment mystérieux. Alors il y a évidemment la réponse jungienne, des archétypes de l'inconscient collectif, qui structurerait notre inconscient et qui ferait que d'un bout à l'autre de la Terre, les contes se répondent.
Oui, qu'il y a une universalité du conte un peu innée, finalement.
Une universalité et une unité qui n'empêche pas la bigarrure. Ouais. Vous voyez, c'est en ça, au fond, regardez, le squelette de l'être humain est le même partout. Mais après, le grain de la voix, l'éclat du regard, la beauté du geste changent, qui font que vous êtes en face de moi comme un être unique et qu'aucune version de conte ne ressemble à une autre.
Vous allez finir par me troubler, Bernadette Bricou.
Ah mais ça, c'est voulu, parce que le conte est une parole de désir. Vous savez, là, il est un peu tôt pour le conte, mais le conte est une parole de désir qui était supposée, dans les sociétés traditionnelles, favoriser les unions et permettre la venue des enfants.
Ah oui.
Ah oui, bien sûr. On ne racontait pas de contes avant le coucher du soleil. Mais vous remarquerez que là, on n'en raconte pas. On les évoque.
On les évoque.
Oui,
on
moi,
les
évoque. Moi, je suis une botaniste. Les jardiniers, ce sont les grands conteurs. Conteuses.
Vous ne vous considérez pas comme une conteuse?
Je n'aurais pas cette vanité-là ou cette. Non, c'est pas de la vanité. J'aimerais pouvoir, mais comme. Un amateur de contes, c'est-à-dire une amoureuse au sens étymologique. Une conteuse, non, je ne crois pas. Mais je n'ai pas eu d'autre souci que de les faire partager.
L'habile stratagème auquel Scheherazade va recourir pour repousser la mort est donné dès les premières lignes des Mille et Une Nuits. Raconter au sultan des histoires étonnantes, surprenantes, en ayant bien soin de ne jamais les terminer au matin. Elle fera ainsi le récit de plus de 500 contes durant 1001 nuits.
Les fameux contes des 1001 nuits qui maintiennent Scheherazade en vie, puisque celui qui pourrait la tuer ne la tue pas tant qu'il n'a pas eu la fin de l'histoire. Bernadette Bricou, un conte, ça peut sauver la vie.
Un conte, ça peut sauver la vie, puisque tout le problème pour Scheherazade, c'est d'arriver à l'aube et que Shahriar, le sultan, lui dise « Et alors ?» Et on continuera la nuit prochaine. Ouais. On disait juste avant la pause musicale que le conte est une parole de nuit. Et on dit que raconter un conte à quelqu'un, c'est lui faire l'amour. Ce qui veut dire que vous avez par exemple des sociétés chez les Dogons, par exemple, au Mali, où il est interdit de raconter des contes entre le frère et la sœur, à n'importe quel âge, entre la mère et le fils quand il a été circoncis, entre le père et sa fille lorsqu'elle est nubile. Parce qu'on pense véritablement que raconter un conte, c'est une manière de mettre la vie au monde. Alors l'histoire des Mille et Une Nuits nous le dit autrement. Au fond, pour Scheherazade, raconter égale vivre. Et je crois que c'est vraiment la fonction des contes. C'est de préserver la vie et de nourrir la vie. Oui. Il y a des sociétés qui vous disent, s'il n'y avait pas de contes, il n'y aurait plus de naissance, il n'y aurait plus de mariage, le monde serait desséché. Vous voyez, c'est comme une pluie, puisque nous sommes dans un jour d'orage, une pluie qui irrigue la terre. Voilà. Donc c'est absolument fondamental, le récit.
Ouais. On se nourrit de ça.
On se nourrit de ça. On se nourrit de ça. Et donc, il est très important. On parlait des enfants tout à l'heure. Et même si le conte n'est pas destiné aux enfants, vous avez des parents qui disent « Ah, raconter des contes, est-ce que ça n'est pas détourner mon enfant du réel ?» Non, non. Il fera tout à fait la distinction entre ce qui est de l'ordre du récit, de la narration et de l'épreuve racontée. Je crois que raconter des contes, c'est au contraire ouvrir à toutes les dimensions de la vie. Mmh. Vous savez, ce sont des récits qui ont traversé des siècles, qui ont été polis par la mémoire comme les galets par la mer. Si c'était pas des récits fondamentaux, ils auraient disparu.
Ouais. Il y en a un qui est en train de un personnage de conte qui est en train de revenir un peu au goût du jour dans nos pays en Occident. C'est le personnage de Nasreddin. Parlez-nous de ce personnage.
Ah oui, alors Nasreddin, c'est un grand voyageur. C'est d'abord un grand voyageur parce que, au fond, ses histoires ont circulé partout, de Tanger à la Chine, on va dire. Alors, il a des noms différents. Le nom de Nasreddin que vous évoquez, c'est celui qu'il porte en Perse et en Turquie. De l'autre côté de la Méditerranée, on le connaît plutôt sous le nom du Hodja ou de Shra. Et Nasreddin, c'est un frère de notre Jean-Bête. C'est-à-dire que, alors ce sont des contes à rire, vous voyez, on n'est pas dans les contes merveilleux, mais ce sont des contes à rire qui sont aussi des contes de sagesse. Nasreddin, c'est un fou qu'on peut croire stupide parce qu'il répond toujours, il a toujours une réponse qui est à côté de la question. À côté, en tout cas, de ce que le bon sens, de ce que la raison prône. Et en même temps, alors il a des comportements surprenants, il est baroque, on dirait aujourd'hui, oui, il est baroque, peut-être Barjot, oui. Et en même temps, la réponse qu'il donne ouvre une fenêtre nouvelle sur notre façon de voir.
Vous avez un exemple ?
Oui, j'ai un exemple qui pourrait, puisque nous venons de traverser des élections, je crois qu'il aurait pu s'appliquer à certains épisodes de la vie politique. Il s'agit d'un orage, donc encore un orage. Nous sommes dans un bras de mer, la tempête s'est levée et Nasreddin est assis dans une barque avec deux rameurs qui rament éperdument contre la vague, contre la tempête, et voilà que l'eau rentre dans la barque. Alors ils disent, Nasreddin, prends ton seau et écope-l'eau, s'il te plaît. Alors Nasreddin prend le seau et il remplit d'eau de mer et il le jette dans la barque. Un deuxième seau, un troisième seau. La barque se remplit d'eau, elle commence à s'enfoncer. Les rameurs s'exclament, mais que fais-tu là, Nasreddin ? Mais que fais-tu ? Tu vas nous faire couler. Nasreddin, sans s'interrompre, je fais ce que m'a dit ma mère. Nasreddin n'écoute pas beaucoup sa femme, mais sa mère si, ah oui. Comme dans les sociétés traditionnelles. Et que t'a-t-elle dit, ta mère ? Elle m'a toujours dit qu'il faut savoir être du côté du plus fort.
Il n'est pas si stupide que ça, Nasreddin.
Oui, c'est assez beau, ça. Oui. C'est assez beau. Et voilà pourquoi, en tout cas, dans les jeux du pouvoir, on pourrait se demander à quel moment on est amené à prendre le seau pour écoper l'eau ou au contraire pour en remplir la barque.
Something hides in every night, brings desire from the deep, and with it comes a burning light to keep us from our sleep. And as a full star tries his best to make the white pearl shine, glances of a new day have arrived. And though he's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever with her smile.
Tamino qui chantait Habibi sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Miroir, miroir magique au mur, ne suis-je point le divin monarque d'un royaume prospère et pur ?
Eh bien, techniquement, vous n'êtes pas roi, mais vous pouvez aisément le devenir. La seule condition est d'épouser une princesse.
Continue.
C'est l'heure, le moment pour vous de départager nos sublissimes Catherinettes et tournez manège. Notre Catherinette numéro 1 est une souffre-douleur, persécutée, cloîtrée dans un royaume très très lointain. Elle aime les champignons à la grecque et les bains à la turque. Ses hobbies, faire la cuisine et le ménage pour ses deux affreuses belles-sœurs. Applaudissons Cendrillon. La Catherinette numéro 2 est une princesse vivant au pays des capes et des fées. Bien qu'elle habite avec cet homme, ça n'est pas une fille facile. Embrassez ses lèvres froides et sans vie et vous réveillerez en elle une fougue échevelée. Allez, tout le monde se lève pour Blanche-Neige. La dernière, et non la moindre, la Catherinette numéro 3 est une rousse volcanique, car des dragons cloîtrés donjons surplombant l'avant-fusion. Mais ne vous laissez pas refroidir, c'est une pin-up oulala. Elle boit des pina colada et vous laissera raplapla. Secourable de suite, Princesse Fiona.
Un extrait de Shrek, notre invitée Bernadette Bricou, auteure de La Clé des Contes aux éditions du Seuil. Alors dans cet extrait de Shrek, un dessin animé, on retrouve un peu tous les codes du conte avec des noms d'héroïnes célèbres. Mais alors on les tord, on les malaxe, on les bouscule. Alors ce genre d'exercice, selon vous, ça revigore les contes ou on est en train d'en faire de la bouillie ?
Mais ça dépend du talent. Je ne me prononcerai pas sur les auteurs de Shrek, mais je dirais que ça dépend, comme toujours, oui, du talent de l'adaptateur qui le revisite. C'est vrai que très souvent, dans les contes, puisque, enfin, ils appartiennent à ce vaste continent qu'on appelle la littérature orale, le merveilleux et le facétieux, le rire et la merveille se répondent. Et donc, on peut avoir des interprétations, des adaptations parodiques, admirables. Je pense à Tex Avery. Qui, pour moi, je veux dire, ça fait partie, enfin, c'est pas ma Bible, mais je veux dire, c'est Tex Avery revisite les contes et il les revisite de manière poétique, c'est-à-dire que le rire ne tue jamais l'enchantement. Le vrai risque, puisque vous parliez de malaxer, détruire, etc., c'est si la dérision prend le pas sur la merveille, si le prince est un imbécile sans intérêt, qui n'a auprès de lui qu'une bergère, qui d'ailleurs n'a pas de désir pour lui, voyez. Autrement dit, si on affadit tout pour le faire rentrer dans la moulinette du quotidien, alors le récit peut y perdre sa fonction elle-même. Donc, la difficulté, elle est grande. Je pense que le rire ne doit pas tuer la merveille. Mmh. Si vous n'êtes pas émerveillé par l'histoire que vous racontez, en tout cas émerveillé, réjoui, ravi, nourri, revigoré, faut pas la raconter.
Oui. En même temps, il y a des contes à rire. Nasreddin,
Bien sûr, mais vous voyez, il y a des contes à rire, mais Nasreddin, on raconte une histoire de Nasreddin, on rit, et puis après on y repense.
Oui, il y a une petite morale.
Oui, il y a quelque chose d'autre.
Est-ce que les contes ont pour vous encore une place dans notre époque et un avenir ?
Alors, je suis très contente que vous posiez cette question-là, Daniel, parce que moi, je crois que vraiment les contes sont d'aujourd'hui et de demain, alors qu'on a tendance à porter sur eux un regard passéiste. Le récit oral est absolument partout. Il est présent, c'est vrai, à l'heure du conte, dans les bibliothèques, dans les hôpitaux, parfois dans les banques. Il y a beaucoup de conteurs qui racontent. Mais il faut aussi, je crois, aller au-delà des cloisons des genres. La parole circule. Aujourd'hui, alors, il y a du récit oral et il y a des contes dans les scénarios de films, dans la publicité qui se nourrit des contes, mmh, notamment lorsqu'elle fait rêver. C'est une banque de données inépuisable. Et puis, il y en a dans le rap, il y en a dans le slam, car après tout, le récit oral circule là aussi. Vous voyez, la parole, elle est multiple et elle se transforme sans cesse.
Oui, l'art du récit n'est pas prêt de tomber en désuétude, finalement, avec cet exemple. Vous le donnez, le slam.
Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Juliette dans l'immeuble d'en face, au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour, quand ils se voient, grandit dans leur regard une envie de partage. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête. Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée.
Grand corps malade qui revisite Roméo et Juliette et qui raconte. Là, on a encore l'art du récit.
C'est très beau, c'est très beau. Ça résonne avec de grands textes. Et vous remarquerez que les rappeurs et les slameurs sont nombreux à revisiter les grands textes. On a par exemple dans mon université à Paris Diderot un concours de rap poésie. Et en fait, on a mis rap et poésie dans le même mot parce que précisément, on ne peut pas établir de clivage. Mais Grand Corps Malade raconte. Mais Oxmo Puccino va se coltiner à Barbe Bleue l'année prochaine. Mais des deux cabales revisitent les Orestis. On a cette rencontre-là.
Je vous pose une dernière question vertigineuse et pourtant vous avez 30 secondes, 40 secondes pour y répondre. Est-ce qu'un conte peut changer le monde ?
Alors, je crois que le conte peut d'abord nous changer et nous transforme. Il transforme celui qui le raconte et celui qui le reçoit, de manière très intime. Mais en 1968, puisque nous arrivons là aussi à un anniversaire l'année prochaine, sur un des murs de la Sorbonne, quelqu'un, un anonyme, avait écrit « Les mots peuvent-ils changer le monde ?» Et quelqu'un d'autre, quelques jours plus tard, répondit « Les mots, non. La parole, si. » Compter les mondes s'inscrit vraiment dans le registre de la parole. Comme le beau film à voix haute de Stéphane de Freitas, la force de la parole. Oui, la parole et les contes peuvent transformer le monde, je le crois. C'est la meilleure arme contre l'intolérance, vous savez.
Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais, que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit. Je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et donnèrent étonnés tout le monde à lever le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens qui étaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. Que s'est-il passé? J'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert, de gravats de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve, réveillez-moi. Réveillez-moi, réveillez-moi.
Il y avait une ville de Claude Nougaro avec Djoubaka à la programmation musicale de l'émission.
Il était une fois, il y a fort longtemps,
sur France Inter,
une jolie princesse aux minois charmants.
Daniel Fievé.
Elle était prisonnière dans un château sans âme, gardée par un dragon crachant colère et flamme.
Le temps d'un bivouac.
Après les contes, une légende. Nous partons dans la mythique forêt de Brocéliande en compagnie de Nicolas Mezzalira, conteur et directeur du Centre de l'imaginaire arthurien. Il nous raconte la légende de la naissance de Merlin.
lâchez pas la corde, hein. Cette forêt, c'est une vraie saloperie.
Bah quoi, c'est une forêt?
Non, non. Elle est hantée ou maudite ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il y en a un paquet qui sont jamais revenus.
Il paraît qu'on s'y perd en moins de deux.
Voilà. Alors, on s'espace pour couvrir plus de surface, mais on lâche pas la corde.
Comme ça, au lieu de se paumer chacun de son côté, on se paumera tous ensemble, reliés par une corde.
Un extrait de Kaamelott de Alexandre Astier qui a un peu remis au goût du jour cette forêt de Brocéliande et certaines des légendes qui y sont associées. Alors d'où vient le nom forêt de Brocéliande?
Vaste débat, comme dirait l'autre. Brocéliande. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur ce mot déjà. Moi, je pense à la, je crois à la puissance des mots. On est à la radio ici, c'est d'autant plus important.
Ah bah, un conteur, c'est normal croyez à la puissance des mots.
Brocéliande, il y a de tout là-dedans. C'est déjà, c'est presque un mantra. Il y a des voyelles, il y a des consonnes. C'est long comme une aventure, comme une forêt. C'est profond. On s'y perd, on trébuche, on se relève.
Il y a tout ça lianes, dans le mot
des
de lions,
de la brousse. Vous voyez, c'est, rien qu'avec le mot déjà. C'est peut-être un mot avant d'être une forêt d'ailleurs. Ouais. Brocéliande, l'invention littéraire de Brocéliande, poétique, elle est due peut-être très sûrement à un monsieur qui s'appelle Chrétien de Troyes. Grand poète champenois du XIIe siècle, inventeur du roman, qui écrit en ancien français, lui déjà, et qui, dans une de ses œuvres, Yvain le Chevalier au Lion, fait de cette forêt, de cette petite forêt de Bretagne, le théâtre principal de son aventure. Brocéliande, d'une brousse, j'entrais dans une lande, j'étais en Brocéliande. C'est rimé, tout ça, c'est de la poésie.
Est-ce qu'on sait où l'a située cette forêt, puisqu'elle semble sortie tout droit de la littérature au départ?
Alors là, effectivement, il y a un débat qui a animé les érudits pendant très très longtemps. Est-ce que Brocéliande était quelque part, déjà? Est-ce qu'elle était du côté de la forêt du Helgoat? Est-ce qu'elle était du côté de la Normandie? Est-ce qu'elle était bien identifiée avec cette forêt de Pimpon dans laquelle elle semble être aujourd'hui? C'est un débat qui a son intérêt. Pas seulement. Je pense que, quelque part, Brocéliande, c'est un peu toutes les forêts aussi. Ouais. Et alors, c'est ça qui nous intéresse, pardon.
C'est vrai que le consensus, c'est plutôt cette forêt de Pimpon, qui se trouve donc en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Décrivez-nous cette forêt de Pimpon.
Alors, c'est la plus grande forêt bretonne, encore aujourd'hui. Elle a quelques arguments, quand même, pour candidater au poste de la Brocéliande, en tout cas, de la forêt qui a pu inspirer cette grande forêt littéraire. Il faut toujours dire que c'est une forêt littéraire, faut pas l'oublier. Elle a en particulier, c'est la plus grande forêt bretonne, une forêt ancienne, attestée avec un toponyme très certainement préexistant aux Brocéliandes des romans courtois français, qui est le Brécilien celtique, avant le Bréchélian qui préexiste lui aussi à Brocéliande. Donc on peut lire quand même une certaine évolution du mot. Et puis il y a surtout, c'est un érudit du 19e qui dit cela, qui s'appelle Félix Bellamy, la véritable Brocéliande est celle qui possède la fontaine de Barenton. Cette forêt, encore aujourd'hui, possède en son cœur une petite fontaine qui a la particularité de laisser échapper quelques bulles, hein.
Ouais. Alors, voilà. On peut l'avoir, hein. Là, on n'est plus dans la légende, on n'est plus dans le mythe. On peut aller au détour d'une promenade voir cette fontaine de Barenton. Elle fait des petites bulles. C'est des petites bulles de quoi qui émanent de cette fontaine, alors?
Là, je vous avouerai que c'est une fontaine magique. Il faudrait essayer d'aller la voir. Elle a été étudiée. Alors, il y a beaucoup d'azote également. C'est ce triptyque forêt, fontaine et aussi le fait que cette fontaine ait le pouvoir de déclencher les orages, qui va être, j'allais dire, le triangle d'or de Brocéliande et qui va, depuis le début du XIIe siècle, faire de cet endroit de Bretagne un endroit pas tout à fait comme les autres.
Alors, personnage ô combien lié à Brocéliande, Merlin, l'enchanteur pour certains. Alors, racontez-nous la légende. On va profiter quand même, vous êtes conteur professionnel, on va profiter de vos talents en mettant tout ça, joliment en musique. Racontez-nous la légende de la naissance de ce personnage mythique qu'est Merlin.
Alors Merlin, c'est à la fois le plus célèbre de tous les personnages et ça reste encore le plus mystérieux. Et forcément, il n'y a pas qu'une seule histoire, mais il y en a plusieurs qu'on raconte sur sa naissance. Certains disent que l'histoire commence, il était une fois, il y a très longtemps, au plus profond des enfers. Que le diable s'est réveillé un beau matin et qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait plus personne au plus profond des enfers. Alors il a convoqué un de ses petits démons, qui lui sert à faire un peu tout et n'importe quoi. Et le petit démon lui a dit qu'effectivement, les hommes, les femmes avaient disparu. On a décidé de convoquer le grand conseil des démons le lendemain matin à l'heure du crabe, et le lendemain matin à l'heure du crabe, très précisément, on a vu confluer vers la grande salle du conseil des démons pour s'asseoir autour de la grande table rectangulaire, ce qu'on appelle les suppôts de Satan. Les démons, Incube et Succube, les grands lieutenants des enfers, le Léviathan, Asmodée, Lilith, Behemoth, Belphégor, ambassadeur des enfers en France. Et tous ces gens-là ont tenu conseil pour essayer de trouver une solution pour revenir l'humanité et lui faire retrouver le chemin de la damnation éternelle. C'est alors qu'un petit démon, autour de la table, a eu une idée. Il s'était dit qu'il fallait faire comme l'autre grand barbu là-bas sur son nuage avait fait. Il fallait que le diable, Satan, en personne, envoie son propre fils sur Terre. Le diable s'est frotté des mains, il a souri d'une oreille jusqu'à l'autre, il s'est félicité d'avoir cette excellente idée, et le lendemain matin, il s'est transformé en un charmant jeune homme, et il a monté toutes les marches de l'escalier qui mènent à la surface de la Terre. Il y a plusieurs marches, plusieurs portes des enfers, comme ça, à la surface de la Terre. Il y en a une en Bretagne, dans les grands marais du Yonne-et-Lèze, près des monts d'Arrée, là-bas. Vous pouvez pas la louper, maintenant il y a une centrale nucléaire juste dessus. Brennilis, bref. Le diable est sorti par là ce jour-là, il a marché quelques lieues, et il est arrivé dans un petit village qu'on peut toujours trouver sur la carte aujourd'hui, un petit village qui répond du nom de Carmarthen. Il s'est installé sur la place principale du village, et il y avait là deux jeunes femmes, assises sur un banc, deux sœurs jumelles qui croyaient très fort en Dieu, parce que le diable aime la difficulté. Et il a commencé à les courtiser. Ça n'a pas marché du tout, les deux filles sont rentrées en courant chez elles, a priori la technique de drague du diable n'était pas au point ce jour-là. Elles sont rentrées en courant chez elles toutes les deux, et elles sont allées vite prévenir un homme très important pour notre légende, un homme qui s'appelle Blaise, un vieux père, un vieux sage, Blaise. Blaise, c'est aussi le nom du loup en breton. Blaise leur a dit, attention les filles, il y a quelque chose de diabolique, de pas très catholique, c'est le cas de le dire, qui se trame autour de vous. Alors vous allez faire exactement ce que je vais vous dire tous les soirs avant d'aller vous coucher, vous allez fermer la porte de votre chambre à triple tour, et surtout vous allumez une chandelle devant la fenêtre. C'est ce qu'elles vont faire. Pendant des jours et des jours, des nuits et des nuits, des semaines et des semaines. Mais un soir, le diable va faire que les deux jeunes filles entre elles vont se disputer. La première va rentrer en pleurant dans sa chambre, elle va s'effondrer sur son lit, elle va bien fermer la porte à triple tour, mais elle va oublier la chandelle. La deuxième, exactement à l'inverse, va, elle, allumer la chandelle, mais oublier la porte. C'est ce soir-là que le diable, en personne, a choisi pour pénétrer dans la maison, et comme seul le diable sait le faire, à pas de velours, sans un seul bruit, il a monté une à une les marches de l'escalier. Il s'est retrouvé sur le palier, entre les deux portes des deux chambres des deux filles. Il a posé la main sur la poignée de la première porte, et la porte a cédé. Il s'est approché là de la jeune fille qui dormait sur son lit, toute griffe dehors. Mais il a tourné la tête, il a vu la petite veilleuse devant la fenêtre, il a refermé la porte et il s'est retourné vers la deuxième chambre. Et là, ben là, la porte était fermée. Alors il a appelé un petit démon, ça sert à ça, un petit démon de l'air et des frontières. Un petit démon passeur de portes. Un démon qui s'appelle Enkibedes Incubus, un démon incube qui a le pouvoir justement de féconder les jeunes vierges dans leur sommeil. Ce qui peut parfois être utile au diable à certains moments. Le démon a fait ce qu'il avait à faire, il a fait céder la porte, le diable est rentré, et là, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé en fait. Un peu comme dans les films américains, on se retrouve le lendemain matin, et le lendemain matin, quand on a vu la jeune fille s'est réveillée, elle était toute décoiffée, toute griffée, elle criait à qui voulait l'entendre qu'elle avait fait un terrible cauchemar cette nuit-là, et qu'elle était enceinte de ce cauchemar. Pas possible ça, d'être enceinte d'un cauchemar. C'est pas possible. Même d'un rêve d'ailleurs, des fois c'est difficile. Elle croyait pas si bien dire parce que toute la journée, elle a vu son ventre s'arrondir. Et ce qui prend normalement 9 mois, si je ne l'abuse. Eh bien, ce jour-là, il en a suffi de 9 petites heures avant que cette femme, dans d'abominables souffrances, ça ne change pas vraiment, a donné naissance à non pas un charmant petit enfant, non mais un monstre terrible, tout poilu, des pieds jusqu'à la tête, avec des cornes, avec une queue en bas du dos qui descendait comme un serpent, avec des sabots à la place des pieds. Et dès que le monstre est sorti du ventre de la mère, il a brûlé tout ce qui pouvait être brûlé dans la pièce. Il y avait un pauvre petit chaton qui était là, il l'a mangé vivant. Et il s'est retourné contre sa mère. Mais juste à ce moment-là, le père Blaise est entré dans la pièce. Le père Blaise est entré dans la pièce, il a attrapé ce diable par la peau du cou, et il a fait quelque chose là d'extraordinaire, il l'a rendu à sa mère. Et la mère alors a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle l'a regardé des dents. Et elle s'est dit, oui, c'est le fils du diable. Oui, c'est l'être le plus méchant, le plus vilain qui soit arrivé sur Terre. Mais c'est mon fils à moi aussi. Elle s'est mise à pleurer. Elle a fermé les yeux, elle a bercé cet enfant. Il y a d'ailleurs une berceuse qui existe toujours en Bretagne. La berceuse de Merlin, Merlin au berceau. Elle l'a bercé, elle l'a serré contre son corps et les larmes faisant, coulant sur cet enfant, ruisselant cet enfant. Quand elle a ouvert les yeux, l'enfant s'était transformé. en un charmant petit bébé, que désormais tout le monde à travers le monde entier connaît sous le nom de Merlin l'Enchanteur.
C'est vrai ce qu'on dit, que vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle ?
Ouais, pourquoi ?
Vous avez plus pris de la pucelle.
Merci à Anne-Sophie Ladonne qui a réalisé cette émission.